VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir à tous, il est 19h en temps universel, 15h ici à Washington. On commence par du sport et en football. Suite de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, ce dimanche, 11 rencontres étaient au programme à Maseru. Le Lesotho a fait match nul, un but partout avec le Cap-Vert. Et puis le Mali est allé battre le Soudan du Sud à Djouba, 3-0. Victoire de la Côte d'Ivoire au Rwanda, 2-1, c'était à Kigali cet après-midi. Et l'Éthiopie a défait la Sierra Leone 1-0. La Tunisie s'est imposée 2-0 contre l'Iswahili, le nom du Swaziland, depuis avril dernier. L'Angola a battu le Botswana 1-0. Match nul dans le derby Togo-Bénin 0-0. Et la Centrafrique a été battue par la Guinée 1-0. Le Sénégal, lui, a été accroché à Madagascar 2-0. Et avec ces incidents autour du stade de Madagascar, au moins une personne est morte et une quarantaine d'autres blessés dans une bousculade à l'entrée du stade Mahamasina de la capitale malgache avant le coup d'envoi du match de football entre le Sénégal et Madagascar, donc entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Un match, je vous le rappelle, qui s'est achevé par donc ce score de 2-0.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ce drame au Soudan du Sud, un petit avion de ligne s'est abîmé dans un lac dans le centre du pays, faisant au moins 2 morts, tandis que de nombreux autres sont redoutés. L'avion compte 19 places et était parti de Djouba pour rejoindre Yirol ce matin, a déclaré un ministre régional de l'information, ajoutant que l'évêque anglican de Yirol, Simon Adjut, faisait partie des morts. L'armée nigériane affirme avoir repris aux djihadistes de Boko Haram la ville de Goudoumbali, dans le nord-est du pays. Les insurgés avaient pris cette ville vendredi après avoir attaqué et pillé la base militaire. Selon un porte-parole de l'armée, ce raid effectué vendredi par Boko Haram dans l'état de Borno n'a fait aucune victime, mais selon un membre d'une milice locale, au moins 8 civils auraient été tués. Le président burkinabé Roch Kabore promet de nouvelles dispositions sécuritaires pour éradiquer le fléau des attaques armées qui ont fait une vingtaine de morts en un mois dans le pays. Kabore s'est exprimé hier après une réunion de 5 heures du Conseil supérieur de la défense nationale, dont c'était la deuxième session. Les militaires ont examiné la situation sécuritaire préoccupante au Burkina Faso, en particulier dans la zone de l'Est, a expliqué le président Kabore. Les attaques armées se sont étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, la frontière du Niger, du Togo et du Bénin, où les groupes armés ont dissimulé des mines antipersonnelles. En Ouganda, un policier qui avait dénoncé la corruption parmi ses collègues a été assassiné hier soir devant chez lui, annonce un porte-parole de la police. Mohamed Kirumira, qui se disait menacé de mort, a été abattu à Kampala alors qu'il était accompagné d'une femme qui a également succombé à ses blessures, a déclaré le porte-parole de la police, Emiliane Kaima. L'ONU dénonce la confirmation en appel par la justice égyptienne de la condamnation à mort de 75 personnes, dont des chefs islamistes. L'organisation appelle à revoir un verdict, je cite, « injuste ». Un tribunal du Caire a confirmé hier la condamnation à mort de 75 personnes, dont des dirigeants des Frères musulmans, dans l'un des plus grands procès de masse depuis la révolte de 2011 dans le sillage du printemps arabe. Au Yémen, 11 combattants pro-gouvernementaux et 73 rebelles houthis ont été tués dans de nouveaux combats autour de la ville stratégique de Hodeïda dans l'ouest du pays, après l'échec de pourparlers qui était prévu à Genève, en Suisse. Et puis, ici aux États-Unis, la tempête Florence devrait se transformer en un ouragan majeur et dangereux ce dimanche après que près de la côte sud-est du pays, selon le Centre national des ouragans, parade militaire enfin en Corée du Nord. Des milliers de soldats suivis de l'artillerie et des chars ont défilé à Pyongyang, mais on n'a pas vu donc ces missiles balistiques intercontinentaux qui ont valu de multiples sanctions internationales à ce pays. Merci de nous avoir suivis. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure. L'info est en continu sur notre site
VOA Afrique. et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir chers fidèles auditrices, auditeurs de VOA Afrique, Eric Manirakiza avec vous. Bienvenue dans ce dialogue de religion. Ce soir, nous revenons sur les scandales pédophiles. Une série d'affaires d'abus sexuels dans de nombreux pays entache l'Église catholique. Le pape François a dénoncé les derniers scandales pédophiles qui ont révélé l'existence d'un véritable réseau de prédateurs protégés par les institutions catholiques américaines. Et dans un texte adressé au peuple de Dieu, donc à tous les catholiques du monde, selon le langage de l'Église, le Saint-Père a placé sur le même plan les coupables d'agissements et les complices du silence, à savoir la hiérarchie ecclésiastique. Il a employé pour la première fois au niveau suprême de l'Église les termes cinglants d'atrocité et de culture de la mort, de blessures qui ne connaissent jamais de prescription. Le rapport de la justice américaine, publié récemment, fait état d'une soixantaine d'agressions ou de viols perpétrés d'un millier d'enfants ou d'adolescents abusés par plus de 300 prêtres couvrant au moins 6 diocèses de Pennsylvanie. Pour en parler, nous avons deux invités. C'est d'abord le père Gerald Murray. Il est curé de la paroisse Sainte-Famille à New York. Il est aussi professeur de droit canonique. Mon père, bonsoir.
Bonsoir.
Nous aurons également Athanase Karayenga, qui est un consultant en communication et qui connaît les arcanes du Vatican, qui a couvert le Vatican pendant très longtemps. On essaie de l'avoir en ligne. Nous aurons aussi des auditeurs pour faire des commentaires, poser des questions, donner aussi des contributions. Mon père, le pape a fait une réaction. C'est une situation embarrassante.
Bien sûr. C'est une tragédie pour l'Église, ce qui s'est passé, et à beaucoup de niveaux, au niveau des prêtres, mais aussi au niveau des évêques qui, malheureusement, n'ont pas bien réagi en plusieurs cas. Ils ont caché les mauvaises actions, les crimes de certains prêtres. Alors ça, c'est... Maintenant, c'est cause de beaucoup de colère parmi les fidèles ici en Amérique et aussi dans toute l'Église.
Mais mon père, ce n'est pas une nouvelle situation. On sait que entre 1990 et 2000, il y a eu une cascade ininterrompue de découvertes et de témoignages qui ont mis à jour de très nombreux cas d'abus sexuels sur des enfants. Il y a plus de 20 ans, vous vous rappelez de ce prêtre irlandais qui a été condamné pour avoir abusé d'une centaine de jeunes durant 40 ans. Et en 2006, l'archevêque de Dublin qui a présenté un rapport qui révélait 350 cas de pédophilie et mettant en cause une centaine de prêtres et de membres de congrégations. Hommes et femmes confondus. En 2009, c'était le rapport Ryan qui avait démontré que 35 000 enfants, dont des handicapés, avaient été salis à vie. Parmi eux, 2 000 avaient subi les assauts de prêtres. En 2009, encore 6 mois plus tard, le rapport du juge Murphy a dénoncé la grande faute de la hiérarchie catholique qui avait dissimulé tant de méfaits, au point qu'en mars 2010, le pape Benoît XVI a présenté les excuses de l'Église catholique d'Irlande et qualifié ces actes de scandaleux et criminels. On condamne, mais ça ne s'arrête pas.
Oui, non, c'est une histoire de honte pour nous les catholiques. Pour nous les prêtres, et bien sûr, le Saint-Père Benoît XVI a été choqué et il a fait des efforts pour purifier l'Église en Irlande. Plusieurs évêques se sont démissionnés. Des nouveaux évêques étaient nommés. Et en Irlande, bien, il y a du progrès dans ce sens, mais en Amérique, ça date de 2002. Et maintenant, avec ces révélations en Pennsylvanie, mais aussi la révélation que le ex-cardinal Makaric avait abusé des jeunes séminaristes, mais aussi des mineurs, des enfants de cœur, c'était affreux, c'est terrible. Et nous devons maintenant admettre la vérité, que, et comme ce que le pape François et même Benoît XVI ont dit, que l'Église n'a pas bien réagi quand ils ont eu connaissance de ces crimes. Et maintenant, ça doit changer et il ne doit avoir pas de tolérance d'aucune forme pour tout ce type de comportement criminel parmi le clergé.
Gardez la ligne, mon père. On va prendre deux auditeurs qui sont en ligne. Il y a d'abord El Awa, qui se trouve au Cameroun. Bonsoir.
Merci, bonsoir à vous et bonsoir au père qui est sur le plateau.
Je vous écoute.
Je dois dire que c'est déjà quelque chose d'encourageable parce qu'au moins le pape déjà reconnaît que ce genre de choses se passent au sein de la grande famille Église catholique. Mais elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles existent depuis des années, et puis on dit des siècles. Mais il y avait des cas isolés. Mais si aujourd'hui ils ont pu reconnaître que ce genre de choses se manifestent dans l'Église catholique, qui est censée montrer le chemin, et si on se des citoyens, faire des citoyens des hommes, qui doivent voir, construire certaines images à partir de l'Église, et que si il y a des choses qui arrivent dans l'Église, je pense qu'il faudrait revoir encore le carnet de route, il faudrait encore revoir comment on reconstruit cette église, parce que franchement, c'est une déperdition accélérée dans ce genre de cas. Et il faudrait vraiment que le pape, après l'avoir dit et reconnu, ce genre d'actes qui puisse donc s'engager et prendre des mesures fermes dans toute l'église, dans l'ensemble de l'église catholique, pouvoir frapper fort et créer des résolutions et des solutions à propos de ce genre de comportement criminel, comme le prêtre vient de le dire sur ce plateau. Merci.
Merci, El Awa. Nous avons Alphonse Mbois qui est à Kinshasa. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Eric.
Je vous écoute.
Vous savez, Eric, les saints-pères, les deux saints-pères, le pape Benoît XVI et puis le pape François, c'est uniquement des excuses à des pardons. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment sanctionner. Il faut des mesures disciplinaires très drastiques à l'endroit de ces dictateurs-là et la hiérarchie complice. Si on ne sanctionne pas, ça ne va pas, ça ne va rien chercher. Ça ne va rien changer. Et puis, deuxième élément, deuxième piste de solution, moi, je pense que l'Église catholique doit essayer de réformer un principe catholique. C'est les vœux de célibat. Vous savez, quand ils viennent de célibat, ils commettent beaucoup d'abus sexuels. Moi, je pense que Dieu n'a pas interdit le mariage. Il faut qu'ils se marient. Parce que les besoins sexuels sont légitimes. Alors, lorsqu'ils veulent rester dans les célibats comme ça, sinon, ils vont toujours commettre des scandales. Ça les verra toujours. Donc, je pense qu'il faut des réformes, beaucoup de réformes au niveau des catholiques, pour que cette Église retrouve sa crédibilité. Sinon, vraiment, ça ne sert à rien qu'on les appelle des religieux. Les religieux, doivent être des gens exemplaires, modèles.
Oui. Merci, Alphonse. Nous avons Athanase en ligne. Athanase, bonsoir.
Bonsoir, Eric. Bonsoir.
Voilà, nous avons un problème au niveau du téléphone, mais vous avez suivi justement ces cas de pédophilie en Pennsylvanie. C'est un problème qui date de très longtemps. C'est l'Église qui, l'image est écornée aujourd'hui.
Oui, j'ai suivi, mais pas seulement qu'en Pennsylvanie, il y a aussi des cas de malheureusement de pédophilie aussi au Chili, il y a beaucoup de cas de pédophilie en Europe, en France, il y a certains cas qui ont été signalés. Et je crois qu'il faut dire d'abord que c'est un drame. C'est un drame épouvantable pour les enfants, pour les victimes. Et aussi, c'est un drame pour les prédateurs sexuels qui peuvent être prêtres ou qui peuvent être des sportifs ou dans des milieux où les enfants sont exposés aux adultes. C'est un drame absolu parce que la sexualité des adultes ne doit jamais occulter le fait qu'un enfant n'est jamais consentant et qu'un enfant, dans tous les cas de figure, est victime. Mais on voit aussi malheureusement d'autres religions que l'Église catholique qui justifient par exemple le mariage à 11 ans de petites filles. C'est de la pédophilie, ni moins ni plus. Donc c'est vraiment un drame humain, c'est un drame qu'il faut absolument analyser avec froideur sans doute, mais aussi avec détermination pour protéger les enfants.
Vous avez couvert le Vatican pendant très longtemps, vous connaissez disons les arcanes du Vatican. La gestion de cette affaire, est-ce que vous pensez que c'est géré correctement ou c'est embarrassant, c'est compliqué?
L'Église catholique, ce n'est pas que le Vatican. Le Vatican, c'est d'abord l'archevêché, c'est l'évêché de Rome. Mais bon, il y a effectivement le Saint-Siège qui représente l'autorité morale mondiale de l'Église catholique. Mais les églises du Chili, d'Argentine, du Congo, de partout sont aussi responsables des déviances ou des dérives de pédophilie que le Vatican peut l'être. C'est une question qui interpelle pas seulement le Vatican. C'est une question qui interpelle, c'est un drame, comme je le disais tout à l'heure, qui interpelle toutes les églises, tous les évêques du monde, et donc qui interpelle aussi la société, j'allais dire la communauté internationale, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas focaliser, même si c'est vraiment très grave, il ne faut pas focaliser le crime de la pédophilie sur les quelques prêtres déviants. Mais il y a aussi, malheureusement, dans d'autres religions, comme je le disais tout à l'heure, où la pédophilie a pris une forme plutôt formelle et acceptée, le mariage des petites filles. Et il y a aussi dans les milieux sportifs, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'Église catholique a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... malheureusement, à se faire pardonner, parce que c'est la seule église où le célibat des prêtres et des religieux et des religieuses est affirmé comme une valeur fondamentale. Et c'est par cette valeur-là que l'église, pas l'église, mais disons certains membres de l'église ont commis le crime de pédophilie.
Il y a justement un des auditeurs, c'est Alphonse Mbouaki à Kinshasa, qui remet en cause le serment de célibat.
Non, ça n'a rien à voir, parce que les femmes et les hommes sont libres d'accepter ou de rechercher même une forme de vie sans mariage ou avec mariage. Le célibat ne conduit pas nécessairement au crime. C'est de la pédophilie, parce que il faut pas se voiler la face. La pédophilie, c'est un crime. Et le célibat n'a rien à voir. C'est un choix libre, c'est un choix tout à fait respectable, c'est un choix tout à fait courageux pour certains, dans certains cas. Mais ça n'a rien à voir avec la pédophilie. La pédophilie, c'est un crime, c'est une déviance.
Gardez la ligne, Athanase. Nous allons revenir vers le père Amouré. Mon père, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, vous avez suivi tous les intervenants. Est-ce que vous avez une clarification à faire ou vous êtes d'accord avec eux?
Non, une chose importante à savoir, que le problème ici aux États-Unis, ce n'est pas vraiment cas de pédophilie. Pédophilie signifie avoir...
Malheureusement, on n'entend pas le père, Eric.
Oui. Justement, je vais essayer de résumer les propos du père, parce que Il y a un problème de technique ici.
Okay. Bon, je continue.
Alors, oui, continuez.
Pédophilie, c'est vraiment le crime d'abus sexuel d'un enfant. Et vraiment, la majorité, grande majorité des cas, c'est des adolescents qui sont déjà capables de se marier, des enfants de 14, 15, 16 ans. Et la grande majorité des cas sont contre des hommes, contre des garçons. Alors, c'est vraiment un problème d'homosexualité dans la clergé. Et ça, c'est on doit savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'homosexuels dans la prêtrise. Et c'est une question importante parce que malheureusement, cette présence crée grand problème. Nous avons le cas de Cardinal McCarrick, ancien archevêque de Washington, qui, les révélations sont venues qu'il était homosexuel, qui obligeait les séminaristes de dormir avec lui au lit dans la maison à la campagne, à la plage. Il avait une petite maison à côté de la plage. Il invitait des séminaristes à dormir là avec lui. Il les obligeait, en fait, de le faire. Alors, c'était un abus de pouvoir, abus sexuel, homosexuel en contre des adolescents. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est le problème. Les séminaires, comme a dit le pape Benoît XVI, ne doivent pas admettre des candidats qui ont ce type de problème. Ils doivent être exclus parce qu'ils ne sont pas aptes, capables de bien vivre le célibat qui est demandé pour ceux qui veulent être ordonnés prêtres.
Oui, mon père, il y en a qui parlent, qui qualifient ce cas de pédophilie comme une arme de destruction massive, malheureusement protégée après la trahison.
Oui, non, nous avons le cardinal Macari avait fait abus sexuel contre plusieurs séminaristes en New Jersey, et quand il était déjà archevêque de Washington, il était dénoncé par deux de ses victimes devant les diocèses de New Jersey, et ces diocèses ont payé pour le silence. Ils ont payé d'argent à deux de ces victimes, et les victimes devaient signer un papier disant qu'ils ne vont pas parler, et à la fois ils n'ont rien annoncé au public à Washington, où McCarrick était en fait l'archevêque à ce moment-là. Alors ils ont payé pour cacher les crimes de McCarrick, et comme cela, il pouvait continuer comme archevêque de Washington sans problème. Ça révèle une gestion mauvaise et incroyable. L'archevêque, c'est le pasteur. Il n'est pas le criminel. Ceux qui sont criminels ne doivent pas occuper ce poste important.
Oui, Athanase, le père Murray disait que le problème qui s'oppose au niveau des États-Unis, c'est plutôt un problème d'homosexualité, et que il y a l'évêque de Washington qui obligeait les séminaristes de dormir avec lui, qui s'est révélé plus tard qu'il est homosexuel. Athanase, est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'il y a un problème de connexion avec Athanase. On va essayer de le retrouver. Mon père, comment mettre fin à cette situation?
Oui.
Quelle est la solution qu'il faut? Il y a un auditeur qui a parlé de réforme. C'est quel genre de réforme appropriée pour répondre justement à cette situation, relever le défi?
Oui. Oui, non, c'est une très bonne question. L'archevêque de Houston, le cardinal DiNardo, qui est le président de la Conférence épiscopale des États-Unis, il a demandé au pape d'autoriser une investigation du cas McCarrick, et cette investigation doit être vraiment indépendante. Ça doit être, bien sûr, sous le tutelle du Saint-Père, mais ceux qui dirigent cette investigation doit avoir la liberté de voir tous les documents, de parler avec tous les témoins, d'obliger les gens impliqués de révéler ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont fait. Alors, on doit avoir ce qui s'appelle la transparence. Signifie on ne cache plus les faits autour de ces crimes et du fait qu'un homme qui était très mauvais, qui était un homme menteur, qui est un homme qui utilisait sa puissance comme évêque d'obliger les jeunes hommes de faire des péchés avec lui. Ce type de choses doit être révélé dans tous ses détails, parce que comme ça, nous pouvons admettre ce qui était mauvais et éviter les mêmes choses au futur.
Nous avons un auditeur en ligne, Marcelin. Bonsoir.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
Je vous écoute.
Moi, je déplore un peu ce comportement, tenir un peu l'image un peu de l'Église catholique. Comment sur un seul nom de Dieu qui ont vocation à le servir l'Éternel, bon, vraiment, vu cette déviation, nous, en tant que fidèles, nous vraiment décevons vraiment ce genre de comportement-là. Et c'est le moment où j'attire l'attention aussi du pape à ce qu'il prenne des sanctions à l'encontre de ces prêtres-là. Il faut purement expliquer, papa. On peut éradier, parce que ce genre de comportement ne n'ont pas d'église catholique. L'église catholique aujourd'hui est référence. Et quand ce genre de comportement persiste, même ça perdure, il y a d'autant plus ce problème existe à l'église catholique. Il faut faire quelque chose. Et vraiment, le pape François fasse réellement des efforts vraiment surnaturels. Parce que c'est un homme de Dieu. Il peut réellement trouver une solution à ce problème-là. Parce qu'il y a longtemps que ce problème persiste. Nous ne sommes pas l'Église catholique. Vraiment, nous sommes éclairés, vraiment. Ça a été un discrédit pour assurer l'Église catholique. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire.
Merci.
Vraiment, c'est le pas qu'on fasse quelque chose. Merci à vous et bonne émission.
Merci, Marcelin, pour votre contribution. Mon père, est-ce qu'on peut dire que finalement les pédophiles se sont dissimulés sous la soutane? Parce que l'ampleur, elle est énorme.
Oui, non, nous avons un grand problème ici. On ne connaît pas le pourcentage des prêtres qui sont des criminels et qui restent dans le patrice pour utiliser leur puissance pour trouver des victimes. On doit vraiment vérifier dans les archives de tous les diocèses qui sont les prêtres qui sont été accusés de ce type de comportement. Ils doivent être jugés, et s'ils sont trouvés coupables, ils doivent être exclus du prêtrise. Et on doit aussi voir dans les séminaires quels sont les moyens utilisés pour faire impossible la promotion au sacerdoce de quelqu'un qui démontre un comportement qui n'est pas exemplaire, qui n'est pas selon la chasteté, on peut dire la rigueur de la vie chrétienne en matière de sexualité. On ne doit pas admettre des gens qui ne sont pas capables de vivre le célibat avec joie et liberté. Alors oui, il y a toute une réforme. C'est une situation de dégradation morale que nous expérimentons.
Oui, le christianisme, c'est la seule religion qui divinise l'enfant. C'est dire le degré extrême de perversité de ceux qui portent atteinte au corps et à l'âme des garçons et des filles qu'ils sont chargés d'édifier dans le respect sacré des plus faibles. Comment maintenant ne pas nous laisser tromper par les apparences honorables des serviteurs de l'Église?
Bon, la vérité, c'est que la grande majorité des prêtres, des religieux, religieuses ne sont pas des criminels, ne sont pas des malfaiteurs dans le domaine sexuel. Alors, on doit confier, après une investigation, dans les résultats, mais seulement si l'investigation est complète et transparente, que les gens peuvent confier. Et en ce cas-là, c'est la grande question aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les évêques qui ont caché ce type de comportement dans le passé?
Peut-être réformer le fonctionnement interne de l'Église et rompre avec sa culture de solidarité hermétique, en quelques secondes.
Non, on doit éviter que les évêques peuvent se défendre utilisant leur puissance. On doit dire, vous êtes sujet, mes seigneurs, aux mêmes moyens d'investigation d'un prêtre. Et on doit dire, la vérité doit être ce qu'on cherche et ce qu'on trouve.
Merci à mon père Gerard Murray pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci à Athanase et à d'autres auditeurs. Eric Manilakiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.